Merci, notre Père, pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci que lui priait pour le peuple de Dieu en disant « Consacre-les par la vérité. » C'est ta parole qui est la vérité. Et nous te prions donc que nous soyons à l'écoute de ta vérité aujourd'hui. Que tu nous parles par ton esprit, que tu nous équipes pour que nous puissions être des témoins de cette vérité, là où on se trouve. Et nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, une lettre d'amour de Ryan Giggs, ancien footballeur gallois, joueur le plus titré de l'histoire du football européen, était lue, cette lettre, à la barre lors de son procès pour violence conjugale. C'est gênant, embarrassant même, d'entrer en quelque sorte dans l'intimité de quelqu'un d'autre quand cela n'a pas été prévu d'être lu par les autres. Alors ici, dans la lettre de 2 Jean, nous avons aussi affaire à une lettre intime, mais elle n'est pas cette lettre privée. C'est une lettre de l'apôtre Jean, vers la fin de sa vie, en toute probabilité. Et il se présente comme étant l'ancien. Il ne se dit pas que c'est Jean l'apôtre. L'ancien, pas forcément parce qu'il est ancien, peut-être comme moi ou comme Paulin ou quelqu'un d'autre dans une église locale, mais parce qu'il est l'un des derniers, peut-être le dernier apôtre en vie lorsqu'il écrit. Et il écrit donc de façon pastorale envers la prochaine génération, de la part de l'un des 12 fondateurs de l'église chrétienne, si vous voulez. Mais à qui est-ce qu'il écrit? Verset 1. À une dame, à la dame choisie. Mais qui est donc cette dame? Certaines traductions de la Bible, dans la Colombe, qu'on utilise souvent ici dans notre église, prend le mot en grec pour dame, c'est-à-dire kuria, et traduit ce mot pour dame en nom propre. Comme si il est écrit à une dame qui s'appelle donc Kuria, ou Kyria, c'est la traduction qu'on donne. Au verset 5, vous voyez que Jean s'adresse de nouveau à cette dame. « Chère dame, je te demande, ta-ta-ta-ta. » S'agit-il donc d'une vraie dame? C'est un peu intrigante, je dirais, de penser que l'apôtre avait éventuellement une relation proche avec une dame en particulier. Mais bien que ce n'est pas exclu à 100%, cette hypothèse, c'est peu probable qu'il s'agit d'une dame. Car Jean se préoccupe, surtout dans cette lettre, pour les enfants de cette dame. Nous voyons cela au verset 1, au verset 4. Et au verset 12, il dit qu'il a beaucoup à vous dire, vous écrire. Verset 10, il parle de ce que eux, au pluriel, ils doivent faire. La dame, donc, qui semble pour la plupart des commentateurs, c'est une métaphore pour l'Église. Jean, lui-même, dans son livre, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, se sert de l'image de l'Église comme étant l'épouse de l'agneau. Et donc, il emploie encore cette image d'une dame pour l'Église. L'Église, s'agit-elle donc de l'Église universelle, l'ensemble des disciples de Jésus-Christ? Je ne pense pas. Au verset 13, il termine en disant que les enfants de ta sœur te saluent. Alors, l'Église universelle n'a pas de sœur. Il n'y a qu'une seule Église universelle. Il est question donc d'une Église locale. Cette dame, avec ses enfants, ses croyants, ses disciples de Jésus-Christ au sein de l'Église. Jean, il vient de croiser un certain nombre de ses croyants de cette Église. Et c'est cela qui le pousse à leur écrire au verset 4. « Je me suis beaucoup réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants vivant dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Voici donc une lettre vers la fin de sa vie, remplie de soucis pastoraux pour l'avenir de cette église locale. C'est une lettre qui tourne autour de deux thèmes, pas difficiles à décortiquer dans cette lettre, l'amour et la vérité. Deux éléments indispensables pour une église locale. Alors peut-être à ce stade, certains réagissent ainsi. Bon, attends. N'avons-nous pas déjà évoqué ces thèmes il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 semaines, dans la prédication que Samuel a faite sur 3 Jean, la troisième lettre de Jean. Et si certains parmi nous ont également en tête la première lettre de Jean, et même peut-être l'évangile de Jean, vous allez savoir que ces thèmes y apparaissent de façon conséquente dans ses écrits également. Faut-il donc vraiment consacrer toute une prédication sur 2 Jean? C'est facile à passer par-dessus. C'est qu'une seule page si vous avez une Bible physique. Ce n'est pas très conséquent. J'ai lu un article d'ailleurs cette semaine sur un site qui cherche à mettre en avant ce que nous appelons aujourd'hui l'égalitarianisme. Le fait de dire que si l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu, ils ont par conséquent les mêmes rôles au sein de la famille, au sein de l'Église. Il n'y a pas donc de distinction de rôle, selon cette façon de penser, entre un homme et une femme. Le positionnement dit complémentariste dit que l'homme et la femme sont égaux, bien sûr, aux yeux de Dieu, mais se complémentent par leurs rôles respectifs. Et cette complémentarité, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour le bien de l'homme et de la femme. Et cet article que j'ai lu plaidait pour une compréhension de ce mot en grec pour « dame » comme désignant une vraie femme et pas une église locale, car ainsi cela ajouterait du poids à l'argument qu'on voulait trouver que les femmes exerçaient un rôle du leadership au sein de l'Église. Et son argument principal pour rejeter l'interprétation que la dame s'agit plutôt de l'Église est celui-ci. Je cite. En tant que lettre générale à une Église, 2 Jean est redondant. Pourquoi Jean écrirait-il cette lettre à une Église? Tout ce qui se trouve dans 2 Jean se retrouve sous une forme plus complète dans 1 Jean. Le contenu doctrinal est si bref qu'il semble supposer que le lecteur est familier avec 1 Jean. Il n'est pas logique que Jean ait écrit cette lettre à une église qui avait déjà lu 1 Jean. C'est vrai? Ce que j'ai envie de dire à ce stade, c'est quel manque de compréhension du cœur humain. Si tu veux que quelqu'un soit façonné par une valeur qui est chère pour toi, il faut y revenir souvent. Alors, dans notre famille, nous sommes sur le point d'avoir rien qu'un enfant à la maison prochainement. Nous avons 2 garçons qui s'envolent dans le courant de cette année-ci. Vous pouvez leur poser la question à plus tard si vous le souhaitez. J'ai à cœur qu'ils s'envolent en ayant des repères qui leur serviront pour le restant de leur vie, mon épouse et moi bien entendu, à chérir certaines choses plus que d'autres, à avoir des convictions solides qui ne s'écrouleront pas dès qu'ils se retrouvent dans un autre contexte. Donc, lorsque dans le courant des semaines à venir, je prends un verre avec eux, oui, c'est ça mon intention, mes chers garçons, est-ce que je leur dévoile à ce moment-là, tout d'un coup, des nouveaux secrets du bonheur et de la réussite, sans en avoir parlé tout au long de ces 16 ou ces 18 dernières années? Bien sûr que non. J'insisterai sur les 2 ou 3 choses centrales. Peu importe s'ils les ont déjà entendues dans leur apprentissage, il faut encore que de telles choses soit ancré en eux. Eux, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont répondre « Bon, papa, ce que tu nous dis, ce n'est pas nouveau, donc ça ne m'intéresse pas. » Non, car ils connaissent également leur propre cœur et ils savent qu'ils ont besoin d'encore entendre ces choses. Alors, avec cela en tête, pensez-vous que l'apôtre Jean, doté par l'Esprit de Dieu, a moins de dons pastoraux que ça? S'il insiste à la fin de sa vie que l'Église écoute encore l'apôtre sur ces deux thèmes, la vérité et l'amour, c'est parce que ces deux thèmes-là sont bel et bien indispensables, doivent être ancrés chez les croyants, encore chez nous, ici, ce matin. Et donc, voyons ces deux thèmes-là, maintenant avec les quatre points que vous voyez sur votre plan. D'abord, la vérité, le fondement de la fraternité. Ceci est clair dans ces quatre premiers versets, là où le mot « vérité » revient cinq fois. Verset 1, il dit qu'il les aime dans la vérité. Non seulement lui, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Il les aime, verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous. Et 6, verset 3, il souhaite que la grâce et la compassion et la paix de Dieu seront avec eux. Il souhaite cela dans la vérité et l'amour. La vérité, bien entendu, ici, c'est la vérité avec V majuscule. La vérité que les apôtres ont proclamé, Jean faisant partie de ces apôtres. La vérité qui découle de la venue sur terre, de celui qui s'est dit le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Jean, dans son évangile, a pu dire que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues comment ? Par Jésus-Christ. La vérité vient de Dieu, révélée par Dieu, suprêmement par Jésus lui-même. Dans ce sens-là, la vérité est synonyme pour l'évangile, pour la bonne nouvelle, la révélation de la bonté de Dieu envers nous en Christ, qui nous sauve de nos péchés par sa venue, par sa mort à la croix, qui vainque les ennemis de Dieu, le péché, la mort, le diable, par la puissance de sa résurrection. Cette vérité de Jésus-Christ est celle, selon l'évangile de Jean, qui nous rend libres, qui nous sanctifie. Dans sa première épître, 1 Jean chapitre 2, verset 4, il parlait de la vérité qui peut être donc en nous ou ne pas être en nous. C'est une vérité que nous possédons donc si nous sommes disciples de Jésus. Elle nous est précieuse. Nous avons cru dans cette vérité, cette révélation que nous avons reçue. Et cela crée des liens de fraternité avec d'autres qui partagent cette vérité. Si Jean les aime, verset 1, dans la vérité, c'est parce que la vérité demeure en eux, verset 2. Et lorsqu'il les a croisés, on ne sait pas où il les a croisés, au verset 4, il s'est réjoui. Pourquoi ? Car ils étaient en bonne santé, car ils avaient reçu déjà réussi leurs examens, car le déménagement s'est bien passé, car certains d'entre eux se sont mariés d'entre-temps, ont pu avoir un poste important au travail. Non, car ils vivaient toujours dans la vérité. La vérité, c'est le cadre nécessaire pour que la fraternité ait lieu. Si nous enlevons la vérité de cette assemblée, ce rassemblement, ce n'est plus une église, vous savez, même s'il y avait de l'amour entre nous. Car il peut y avoir de l'amour parmi des gens de toutes sortes de rassemblements, loisirs, sports, professionnels, autres. Ce qui nous unit, ce n'est pas l'amour, c'est la vérité. Et donc l'application de ce premier point, c'est surtout pour vous qui tâtonnez, je dirais, à propos de cette vérité. Peut-être vous êtes en visite parmi nous et vous vous demandez ce qu'il en est de cette vérité. Peut-être vous fréquentez de temps à autre notre assemblée. Peut-être vous avez pas mal de connaissances en ce qui concerne cette vérité. Peut-être vous trouvez cette église accueillante au soleil. Et donc, peut-être vous vous dites après, mais c'est chouette d'être ici. Il n'y a pas trop de distinction entre mes relations avec les autres ici présents et leurs relations les uns les autres. Mais vous vous trompez. Quand il n'y a pas de fraternité chrétienne en dehors de la vérité. On ne peut pas faire court-circuit ici pour faire partie du peuple de Dieu. J'appartiens à l'Église, juste comme ça, parce que j'aime quelques personnes. Même s'il y a des bonnes affinités que vous avez pour quelques personnes ici présentes. Non, nous faisons partie de la famille chrétienne grâce à la vérité. C'est le fondement de notre fraternité. Mais si c'est vrai que c'est la vérité qui nous unit, ce n'est pas l'amour, l'amour est l'expression de notre fraternité. C'est une expression indispensable, notre deuxième point. L'amour pour vivre cette fraternité. Nous voyons cela dans ce que l'apôtre nous dit au verset 5. Et maintenant, chère dame, je te demande, ce que je t'écris n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau. Ils ont connu ce commandement dès le commencement de l'ère chrétienne, la venue de Jésus. Parce que Jésus avait donné au chapitre 13 de son évangile un commandement nouveau à ce moment-là. Celui d'aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il disait. Et cet amour continue à être nécessaire dans l'Église locale, dans notre Église locale. Car si c'est la vérité qui nous unit, et ce n'est pas l'amour, ben cela signifie que naturellement, il y a plein de raisons pour ne pas aimer celui avec qui je suis uni par la foi. Peut-être quelqu'un ne parle pas la même langue que toi, ici présente, et donc c'est difficile de l'aimer. Peut-être qu'un couple a des enfants difficiles à supporter pour vous dans cette église. Peut-être que quelqu'un de notre assemblée manque du tact lorsqu'il te pose des questions. Après notre rassemblement, peut-être que vous trouvez des opinions politiques de l'autre ici dans cette assemblée qui ne sont pas du même goût que vous. Peut-être il y a certaines personnes qui arrivent plus en retard que vous. Peut-être il y a d'autres qui s'habillent différemment que vous. Peut-être à l'école ou à un club de sport ou de loisirs, l'autre ici présent ne fait pas partie du même groupe que vous dans ces endroits-là. Peut-être que la façon que tu vois que l'autre ici présent gère son argent, ou gère son agenda, gère ses engagements, ce n'est pas le même que votre façon de gérer ces choses. Que dit l'apôtre ? Que nous nous aimions les uns les autres. Pas que nous nous aimions pourvu qu'il soit aimable, vous remarquez là. Ou au moment où cela me convient de les aimer, le dimanche matin. Facile d'aimer quelqu'un pendant 5-10 minutes, de s'intéresser brièvement à ce qu'ils disent, et puis de dire, ouf, content de quitter celui-là. Hein? Non, les aimer, comme je vous ai aimé, disait Jésus. C'est-à-dire de manière intentionnelle, sacrificielle, me donnant pour eux un coup personnel. Et on est loin, là, d'un amour sentimental, n'est-ce pas, chers amis? Je mangeais un hamburger en famille, en terrasse, cette semaine, Et j'observais en terrasse à ce moment-là, lorsqu'on mangeait, un couple qui se tenait la main sans parler pendant une bonne dizaine de minutes, qui regardait les yeux l'un de l'autre pendant plusieurs minutes en attendant l'arrivée de d'autres personnes. Et cela donne, et ça m'a frappé une nouvelle fois, ça donne l'impression, ça, d'être un peu l'apogée de l'amour, n'est-ce pas? Mais vous savez, la Bible parle très peu de l'amour sentimental de ce genre. Car l'amour sentimental n'est pas coûteux. Même lors de nos mariages chrétiens, je pense que nous aimons souvent, je ne sais pas ce que Ben prévoit pour son mariage, lire et prêcher des textes très connus sur l'amour. C'est ce que nous avons fait pour notre mariage. Je ne suis pas en train de critiquer cela en tant que tel. 1 Jean chapitre 4, 1 Corinthiens 13. Le présupposé parfois derrière tel texte, c'est que l'amour du couple est l'expression la plus grande d'un tel amour. Mais ce n'est pas le cas. Ces textes s'adressent toujours à une église locale. Car l'amour entre chrétiens n'est jamais un amour rien que sentimental. C'est plus profond. C'est un amour sacrificiel. Un amour qui donne, comme le Seigneur Jésus, lui, s'est donné pour nous. Bien-aimé, dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à ce genre d'amour dans toutes nos relations, bien entendu, y compris nos couples. Mais le lieu d'apprentissage pour un tel amour, c'est ici. C'est l'église locale. Quand c'est là où on se trouve avec d'autres, pour des raisons qui ne sont pas sentimentales. Peut-être vous venez d'arriver aujourd'hui et vous trouvez, premier abord, que cette assemblée est assez chouette. Excellent, si vous trouvez cela. Mais ceux qui sont là depuis un certain temps savent que nous ne sommes pas aussi chouettes que cela. Et éventuellement, vous êtes là et vous êtes plutôt un peu cynique. Et Dieu nous dit une fois de plus que malgré la difficulté d'aimer les uns les autres, que devons-nous faire? Aimez-vous les uns les autres. Car après tout, verset 6 de notre texte, l'amour consiste à vivre selon les commandements. Rappelons-nous que Jésus a dit qu'il n'y a pas de commandement plus grand que ceci, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. C'est là, il dit, le commandement dans lequel vous devez vivre, comme vous l'avez entendu. Dès le commencement. C'est un mot d'ordre, si vous voulez, donc pour notre Église, pour cette nouvelle année académique qui va bientôt démarrer. Car au-delà d'un ça va le dimanche matin, je me demande, que feriez-vous pour mettre en pratique ce commandement? Qui est-ce que vous allez saluer après ce rassemblement? Auprès de qui comptez-vous cette année-ci exercer de l'hospitalité dans notre assemblée? Qui contacterez-vous pendant la semaine, cette semaine-ci, pour encourager l'une ou l'autre personne? Ceux qui vous ressemblent, qui sont donc fort faciles à aimer, ou vos sœurs et vos frères en Christ? Peut-être juste un dernier mot aussi, point de vue application, avant de passer au point suivant. Pour ceux qui vivent à la lumière d'une déception sentimentale, un brisement relationnel dans la famille, une solitude éventuellement relationnelle, car le conjoint idéal ne semble pas encore être en vue ou n'est plus avec vous, le danger lorsque nous sommes face à ces difficultés-là, c'est de fixer encore notre regard sur l'aboutissement de ce désir, un désir légitime de réconciliation, de retrouvailles, d'une vie de famille épanouie. Et tant que vous ne l'avez pas, c'est de mettre votre vie en quelque sorte en pause comme si ce n'est que cela qui pourrait vous libérer pour être épanoui. Mais vous savez, chaque jour suffit sa peine, disait Jésus. Aujourd'hui, nous sommes appelés à remercier le Seigneur pour ce que nous possédons en lui et pour notre famille en Christ, de ce que nous pouvons faire relationnellement au sein de cette église locale, de s'intéresser à quelqu'un, de visiter quelqu'un, de prendre du temps pour encourager quelqu'un, à servir quelqu'un, pour que cette personne puisse tenir ferme dans la foi. Il y a beaucoup de pistes, chers amis. Il ne faut pas croire ce que le diable veut nous faire croire, que ton épanouissement dépend de la réalisation de tous tes rêves relationnels. C'est faux, cela. Il y a déjà un contexte concret pour exercer de l'amour et pour recevoir de l'amour. Et ce contexte, c'est l'église locale. Alors faites cela une priorité pour cette nouvelle année. Ça commence avec un engagement solide et régulier pour ce rassemblement-ci, dimanche après dimanche. C'est là où on croise les gens, où on arrive à déterminer qui pourrait être en besoin d'un encouragement. Ce n'est pas la fin de nos relations, ce croisement de dimanche matin, mais c'est quand même le début. Et donc d'être rien qu'irrégulier, c'est de faire preuve de peu d'amour fraternel. Et il faut de l'amour pour vivre notre fraternité. Troisième point, la vérité à garder pour préserver la fraternité. L'amour n'est pas flou, il est concret. Il consiste, dit l'apôtre ici, à garder les commandements de Dieu. Car verset 10, verset 7, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Donc si la vérité donne la fondation pour la fraternité, cela va de soi qu'elle est nécessaire, cette vérité, pour préserver la fraternité. À l'époque où Jean il écrivait cette lettre, déjà dans la première génération, donc de ceux qui ont connu Jésus lui-même sur terre, il y avait ceux qui tordaient cette vérité. De toute évidence, si ces personnes avaient l'air sympa, beaucoup tendaient l'oreille à leur enseignement, ça gagnait en puissance, c'est pour ça qu'il fallait que Jean avertit dans cette lettre. Ce qu'on peut comprendre, car verset 9 parle de celui qui va plus loin. C'est-à-dire, il donne l'impression de ne pas mettre en danger la vérité, mais de rendre cette vérité encore plus attirante. Mais en ce faisant, il modifie la vérité. Il l'adapte. Il la rend encore plus appropriée pour l'ère dans laquelle nous vivons. À l'époque, il y avait un présupposé dans la mentalité de nombreuses personnes que le domaine physique, matériel, n'était pas pur, n'était pas bon. Et pour atteindre donc la pureté, la perfection, il fallait se débarrasser de tout ce qui était corporel, matériel. Jésus-Christ, parfaitement homme et parfaitement Dieu, sonnait mal pour cette philosophie-là. Nous savons que dans l'Église primitive, il y avait un point de vue qui disait que le Christ, le Messie, quant à lui, divin, est descendu sur l'homme Jésus, juste humain, lors du baptême de Jésus. Et ensuite, le Christ l'a laissé avant sa crucifixion. Il voulait défendre une telle thèse afin de protéger le Christ, le Messie, de l'imperfection de l'humanité. Ainsi, pour reprendre le verset 7, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Vous voyez ça? Ce n'est pas donc qu'ils rejetaient l'homme Jésus, disaient que Jésus n'a jamais existé, si. mais qui disait que c'était mieux de distinguer le Christ de la personne homme de Jésus. Cela, vous savez, avait l'air spirituel, avait l'air même contemporain, n'est-ce pas? Gagner en puissance des adeptes. Mais quelle est la conclusion de Jean? Verset 7. Voilà l'imposteur et l'antichrist. Il est faux. Opposons à Christ. Un tel message tord la vérité. Jésus, le Christ, à la fois 100% homme, 100% Dieu. Rejetez cela, c'est verset 9, de ne pas avoir Dieu, de ne pas avoir le Père et le Fils. Il faut retenir, il faut demeurer dans l'enseignement apostolique. C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte à prendre garde à nous-mêmes au verset 8, de ne pas persister dans cette vérité, c'est de perdre le fruit de notre travail. Et donc, notre objectif tout au long de cette nouvelle année académique en tant qu'Église, c'est de continuer à vous exposer à cette vérité. À vous, si vous êtes jeune, car votre danger en tant que jeune, c'est d'être emporté par tout nouveau vent de doctrine qui semble être à la mode, qui correspond plus à vos ressentis. À vous, si vous êtes adulte, vous êtes bien habitué peut-être à l'évangile de Jésus-Christ, et parfois un nouvel enseignement qui a l'air spirituel pourrait sembler assez attirant, parce que cela ajoute, vous dites, de la fraîcheur dans votre café spirituel du dimanche. Mais à vous aussi, si vous êtes plus avancé en âge, et petit à petit, vous êtes plus préoccupé par les soucis de santé, est-ce que vous cherchez surtout, c'est un message qui donne de l'aide et une écoute attentive à vos plaintes. Peu importe notre stade de vie, l'apôtre nous dit, prenez garde. Ne soyons pas séduits d'un message spirituel, chrétien en quelque sorte, mais qui nous éloigne de la vérité. Ce n'est pas aussi évident que cela, hein? Même dans cette église, je me souviens d'avoir assisté à un week-end d'église de cette église, il y a bien des années maintenant, où un orateur nous avait invités, tous présents à ce moment-là, d'après un texte de l'Épître aux Hébreux, à rejoindre l'ordre de Melchisédek. Alors, si vous connaissez votre Bible, vous allez savoir que cet ordre est réservé uniquement à Melchisédek, personnage de l'Ancien Testament, et Jésus-Christ. Penser que nous pouvons rejoindre cet ordre-là, c'est de nous mettre sur le même plan de divinité que Jésus lui-même, notre grand prêtre. Mais ce qui m'a frappé lors de cet enseignement, ce n'était pas l'enseignement faux en tant que tel, mais c'était le nombre de personnes qui étaient séduites par l'offre d'appartenir à l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est biblique. L'ordre de prêtre, c'est plus ou moins biblique. Je peux y appartenir. Waouh, magnifique, non? Yes, please. Non. Ça l'est spirituel. Ça parle des qualités qu'il fallait pour rejoindre l'ordre de Melchisédek. Et donc, cela mettait au défi. On cochait tout le monde collectivement à ce moment-là la tête en disant, oui, s'il te plaît, si je peux avancer, moi, je veux bien. Prions donc pour un discernement par rapport à la vérité, dans notre assemblée, à garder la vérité, afin de préserver une vraie fraternité dans la vérité. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, par rapport à ça, ici ce matin? Vous pouvez lire un livre, il y en a certains ici dans la librairie de l'Église, vous pouvez nous rejoindre pour le chapitre 9 de ce livre-ci, redécouvrir l'église locale. Vous pouvez vous inscrire à un cours ponctuel en semaine ou le samedi à l'Institut biblique belge. Il y a des informations dans le moyen qui se trouve là-bas. Vous pouvez consulter un site chrétien fiable, comme par exemple Tout pour sa gloire, plutôt qu'un site moins fiable, comme top chrétien, là où le contenu est plus mixte. Si vous voulez nous en parler, alors allez parler à Benjamin parce qu'il connaît mieux les sites que moi. Mais c'est important de faire attention à ce que nous lisons. Faire cela, et quatrième point, nous serons en mesure ensuite d'exercer l'amour. Car l'amour, dernier point, est là pour protéger la fraternité. Verset 10, si quelqu'un vient vous voir sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour, car celui qui lui dit bonjour sera complice de ses œuvres mauvaises. À l'époque, accueillir quelqu'un dans sa maison, dans ta maison, c'était d'être aussi garant pour cette personne par rapport à la communauté. C'était un peu comme si tu lui donnais son certificat de casier judiciaire. Et donc l'apôtre dit attention, qu'en accueillant quelqu'un, vous ne donnez pas un tampon de « oui, celui-là, vous pouvez lui faire confiance ». Mais il faut aussi prendre en compte que l'Église se tenait à cette époque dans des maisons des chrétiens, et probablement Jean a cela en vue dans cette exhortation. Il ne faut pas donner à une telle personne une plateforme pour son enseignement. Ne lui dis même pas bonjour. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas l'endroit de lui donner l'impression qu'il fait partie de votre communauté. Bien sûr, il faut toujours rester poli, chers amis. Respecter la dignité humaine de tout homme. Mais c'est une chose d'être bienveillant envers les autres, et c'est une autre chose d'assister quelqu'un dans la propagation de ses faux enseignements. J'ai eu un échange cette semaine avec quelqu'un de notre église avant-hier par rapport à quelqu'un qui fréquente un groupe de notre église depuis un certain temps, mais qui ne partage pas la foi de ce groupe et qui récemment s'est présenté sur le groupe WhatsApp de ce groupe avec des idées contraires à la foi chrétienne, des vidéos, des photos, etc. On m'a demandé si je pensais qu'une telle personne doit encore être accueillie au sein de ce groupe. Et j'ai dit non. Car c'est une chose, bien entendu, accueillir quelqu'un pour les exposer à la vérité. Vous êtes tous les bienvenus aujourd'hui pour entendre ce que nous disons. Mais c'est une autre chose de vous donner la parole ici devant pour enseigner un autre message qui est en contradiction avec la vérité. Alors peut-être pour vous, au premier abord, cela semble pas très rempli d'amour de ne pas accueillir cette personne, de même pas saluer une personne s'il est nécessaire. Mais si Jean recommande une telle façon d'agir, c'est parce qu'il sait que c'est là le chemin de l'amour pour protéger la fraternité. Cet amour, Jean fait preuve de cela lui-même en disant qu'il souhaite les voir à la fin de cet épître. Verset 12, « Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas souhaité le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller vous voir et vous parler de vive voix pour que notre joie soit complète. » Il y a des limites à des réunions Zoom, je pense qu'il dit. Ça n'empêchait pas qu'il se sert, n'est-ce pas, du papier, de l'encre. Il est en train d'écrire quand même. Zoom peut aussi servir, on mène à cela. Mais l'amour tend à ce que nous voyons les uns les autres. Et il termine aussi en disant à cette église, les enfants de ta sœur, cette autre église, cette sœur choisie, te salue. Il y a un amour authentique entre chrétiens. Et donc, il faut protéger cet amour. C'est un amour fondé, nous avons vu, par la vérité, sur la vérité, pour faire vivre cette fraternité par l'amour, un amour qui cherche donc à garder la vérité afin de préserver cette fraternité, et un amour aussi qui protège cette fraternité. Alors, en terminant ce matin, ce que je peux vous demander deux choses. De vous engager à prier pour que ces deux qualités, vérité et amour, soient encore présents pour une année académique de plus chez nous. Et deuxièmement, est-ce que je peux vous demander à vous engager à soutenir l'Église dans sa poursuite de vouloir vivre ces deux éléments indispensables, la vérité et ensuite l'amour. On va terminer dans un instant, je pense, avec un dernier chant qui exprime notre joie ensemble de bénir le Seigneur en tant que peuple de Dieu. Et le quatrième strophe nous dit ceci, « Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. » Alors je vous invite, chers amis, à prier avec moi avant de clôturer. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ton amour pour nous. L'amour, ce n'est pas que nous t'avons aimé, mais toi, tu nous as aimés en premier. Tu t'es donné pour nous dans la personne de ton Fils. Et grâce à cet amour, nous puissions donc connaître le chemin, la vérité et la vie. Nous te louons, Seigneur, pour cela. Et nous te louons pour l'immense privilège que nous avons de connaître et de proclamer, de vivre la vérité. Protège-nous dans cela, nous te prions. Donne-nous de encore être plus ancrés, enracinés dans cette vérité. Mais donne-nous également d'exercer de l'amour sacrificiel, avec discernement. Et cela pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions.